Vous écoutez France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
Je n'accepterai jamais qu'on puisse dire cet être humain, il a commis une infraction, il a été condamné, il a fini sa peine, ça ne fait rien. Nous le gardons, comme dans les sociétés totalitaires, parce que nous considérons qu'il porte en lui une dangereuse.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeanneney. Bonjour, la récidive des criminels. À intervalles réguliers, des faits divers sanglants viennent porter au-devant de l'attention publique, parfois jusqu'à la hantise, le débat sur ce risque social majeur et sur la manière la plus efficace pour la société d'en diminuer les effets. Pour ne parler que du plus récent, au début d'octobre dernier, un criminel déjà condamné pour viol et remis en liberté a reconnu le meurtre d'une jeune femme dans des bois proches de Milly-la-Forêt. Et peu après, une même émotion a entouré le procès de Francis Évrard, un pédophile qui, après avoir purgé 30 ans en prison au total et plusieurs fois récidivé, a violé à nouveau un petit garçon en 2007. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, pour sa part, a choisi de longue date de faire de la question de la récidive l'un de ses thèmes prioritaires dans le domaine de la justice. Il a inspiré la loi du 10 août 2007, instituant, contre le principe de l'individualisation des peines, un arsenal de peines planchées, de peines minimales pour les récidivistes. Et il a surtout suscité la loi du 25 février 2008 qui prévoit ce qu'on appelle la détention de sûreté pour des personnes qui, après leur peine purgée, présenteraient un risque de récidive. Ces citoyens seront ainsi emprisonnés non pour des forfaits accomplis par eux, mais pour d'autres que potentiellement ils seraient susceptibles d'accomplir. Ce qui pose de graves questions à la démocratie, questions que Robert Badinter notamment a ardemment soulevées. Or, cette interrogation collective sur la récidive ne date évidemment pas d'aujourd'hui. J'ai convié Michel Porret, professeur d'histoire à l'Université de Genève, à traiter de ce grand sujet ce matin parce qu'il a organisé avec Françoise Brigel un livre collectif, riche en informations et riche en réflexions, qui lui est consacré sous le titre « Le criminel endurci ».
J'ai demandé au garde des Sceaux, au ministre de la Santé, de rédiger à bref délai, c'est-à-dire au mois de novembre, un texte qui prévoira que nous ferons maintenant la différence s'agissant des délinquants sexuels entre l'exécution de la peine et les questions de sûreté. Un détenu comme ce monsieur Évrard ne pourra pas sortir de prison uniquement parce qu'il a exécuté sa peine. Des détenus de ce type, à la fin de leur peine, seront examinés par un collège de médecins et si ce collège des médecins reconnaît leur dangerosité, ils ne seront pas remis en liberté, ils iront dans un hôpital fermé. Ceux qui n'accepteront pas d'être soignés resteront dans cet hôpital fermé, le temps où on estimera qu'ils sont dangereux. Ceux qui accepteront d'être soignés pourront avoir des permissions, mais le feront en portant un bracelet électronique, en suivant un traitement, appelez-le que vous le souhaitiez ou non, castration chimique, les mots ne me font pas peur. On ne peut pas laisser en liberté des prédateurs. Quand on a violé plusieurs fois des mineurs, même une fois, on ne vous demande pas votre avis pour savoir si vous voulez être soigné.
Michel Porret, bonjour.
Bonjour et merci de votre invitation.
Nous venons d'entendre Nicolas Sarkozy le 20 août 2007. On est là très, très clairement dans l'exposé des motifs qui ont conduit à la loi du 25 février 2008, quelques mois plus tard, sur la détention de sûreté. Je comprends qu'en Suisse aussi, puisque vous êtes suisse, Michel Poret, en Suisse aussi, on a récemment légiféré sur ces choses.
Je crois que le discours de votre président est révélateur d'une sensibilité européenne actuellement, qui lie plusieurs éléments, et ça ressort très très bien de ce discours-programme sur le sécuritaire, qui lie plusieurs éléments, c'est-à-dire d'abord l'insistance qui est faite sur la criminalité de nature sexuelle, l'insistance qui est faite sur une figure extrêmement inquiétante qui est le prédateur sexuel, le prédateur social, qui serait là et qui serait inguérissable par le traitement, qui serait inguérissable par la peine.
La peur du loup, en somme, les loups sont entrés dans Paris.
C'est un peu la peur du loup, c'est un peu la peur du loup-garou d'Ancien Régime, ça fait très très penser à ça. Et ça met en évidence ce que certains pénalistes ont écrit récemment sur « on entre dans une justice qui serait une justice post-moderne », c'est-à-dire qui ne vise plus uniquement à neutraliser et à punir, mais qui vise, dans la longue durée, à maintenir indéfiniment des individus sous le contrôle judiciaire. Mais je crois qu'il faut beaucoup insister sur ce discours politique qui insiste énormément, alors que statistiquement, finalement, la criminalité sexuelle n'est pas la criminalité qui écrase les statistiques. La criminalité qui écrase les statistiques, on le sait, c'est la délinquance au volant, c'est le vol, c'est l'incivilité, etc. Mais on insiste énormément, effectivement, sur des grands faits divers qui sont très fortement médiatisés, le sont depuis le 19e siècle, pour légitimer, pour faire passer un système pénal qui devient de plus en plus autoritaire au nom d'un discours sur l'insécurité.
Il faut rappeler que cette loi, après correction par le Conseil constitutionnel, cette loi d'août 2008, ne s'appliquera qu'à partir des années 2020 en France, au nom de la non-rétroactivité des peines. Mais vous êtes allé plus vite, vous, en Suisse. Rappelez-nous, parce que nous avons beaucoup d'auditeurs en Suisse, bien sûr. Et ils savent cela, mais pas les autres. Vous avez une votation populaire. Et parfois, les référendums peuvent avoir quelques inconvénients.
Exactement. Il y a eu en Suisse un mouvement aussi très fort qui allait dans cette direction-là. Et maintenant, le Code pénal suisse permet effectivement de faire que quelqu'un qui est condamné à une peine d'emprisonnement pour un crime sexuel peut l'être à une peine de perpétuité absolument réelle, qui ne peut plus être aménagé ensuite après par un juge d'application des peines.
Cela dit, je ne crois pas qu'il faille entièrement braquer l'attention sur notre seule contemporanéité, parce qu'il y a des précédents. Dans le livre que vous avez organisé, je relève ce propos d'un autre pays francophone, au moins partiellement francophone, la Belgique. Ce propos d'un criminologue de Bruxelles, Adolphe Prince, 1845-1919, qui déjà estimait que la société était impuissante face au danger social de la récidive et par conséquent qu'on ne pouvait pas remettre constamment les récidivistes, je le cite, dans la circulation, car c'était, disait-il, vicier davantage l'air déjà impur que respirent les enfants du peuple et rendre plus précaires encore les conditions de leur vie morale. C'est multiplier sous leurs pas les risques de corruption et de chute.
Oui, je crois que Prince était déjà dans cette sensibilité qui s'est construite dans la culture pénale, en tout cas depuis le milieu du XVIIIe siècle. C'est que finalement, il y a des individus qui ont commis des crimes et qui échappent au traitement que la peine peut leur infliger. Et ces récidivistes, ils fonctionnent comme une sorte de miasme pathologique, c'est-à-dire qu'au contact de ces récidivistes, la population, finalement, d'une certaine manière, est contaminé par le mal du crime que ces voleurs d'habitude, que ces violeurs, que ces cambrioleurs d'habitude diffuseraient dans leur milieu social. Donc Prince est très intéressant parce qu'il est dans un mouvement pénal à la fin du XIXe siècle qui a essayé de mettre en place ce qu'on appelait la prévention sociale, c'est-à-dire un droit pénal extrêmement dur qui fait que finalement, celui qui est puni pour la première infraction, d'une certaine manière, soit neutralisée définitivement.
Le concept juridique de récidive dont vous parlez, dont nous parlons, est entré vraiment dans la banalité à la fin du 19e siècle, mais il est bien plus ancien que cela. Et il est toujours intéressant pour pénétrer dans un sujet de se demander d'où vient l'expression qui le caractérise.
Alors c'est intéressant, parce que c'est un mot finalement dans le sens criminel ou criminologique qui entre assez tardivement dans la langue française, puisque c'est un mot qui s'est construit sur une autre idée, c'est-à-dire qui s'est construit sur des idées de maladies récurrentes, de maladies pathologiques, de maladies inguérissables.
Oui, mais la métaphore biologique pour évoquer des dérives de la société, elle est de toujours.
C'est pour ça que le mot est intéressant, parce qu'il y a eu une sorte de naturalisation dans le vocabulaire juridique, d'un concept qui était un concept médical plutôt associé à des phénomènes d'épidémie, à des phénomènes de maladies récurrentes.
Récidiva, c'est dans le latin médiéval déjà qu'on le trouve. Au
début du XVIe siècle, effectivement, on l'utilise dans ce sens-là. Et petit à petit, on va l'utiliser dans un autre sens, c'est-à-dire non plus la maladie qui revient et qui est inguérissable, mais on va l'utiliser pour décrire le repassage à l'acte d'un crime. Et puis, il y aura ce décalage. Très souvent, le vocabulaire pénal, le vocabulaire criminologique fait cette opération, c'est-à-dire qu'on va chercher des termes dans la nature, dans les sciences naturelles, pour essayer de comprendre des pathologies sociales.
Mais si on regarde la fin du Moyen-Âge, la Renaissance et le début de ce qu'on appelle l'âge moderne, on s'aperçoit que c'est surtout sous un angle moral qu'on considère la récidive. Je vais vous faire entendre, parce qu'il me semble que cela fait quelque peu écho, le témoignage d'un grand truand, qui était Francis Guillot, qui avait été le lieutenant du fameux, tristement fameux, Bill Buisson, lui-même guillotiné, après la libération. C'est un extrait de Parti pris sur France Culture le 22 juin 1976. Il a été libéré en 1971, et il explique le regard moral et religieux que lui-même jette sur sa propre histoire, comment il est devenu chrétien.
J'aurais pu, par exemple, quand je suis sorti, ils voulaient faire une manche pour moi, pour me filer un peu de pognon. Bon, ben, j'ai pas accepté, parce qu'automatiquement, ça me créait des obligations. Hein. Alors que les seuls gens qui m'ont aidé à ma sortie, que j'ai accepté, qui m'aident à ma sortie, eh ben, c'était tous des amis que je m'étais fait, mais c'était pas des truands. C'était des bons chrétiens, ceux-là, pas des bidons. Parce qu'il y en a des bidons, mais ceux-là, c'était vraiment des chrétiens sincères. Et puis qui m'ont filé un bon coup de paluche, c'est comme ça que j'ai pu trouver le boulot que j'ai. Et d'abord, si je suis sorti, c'est d'abord déjà la grâce au curé de Chaulois, parce que personne ne voulait me recevoir, il n'y a que lui qui a pris la responsabilité de bien vouloir m'héberger à ma libération. Sans ça, je ne serais pas sorti, quoi. Non, on peut en sortir du milieu, bien sûr qu'on peut en sortir, seulement voilà. J'ai eu un éducateur un coup, ça devait être à Toul, c'est à la centrale de Toul. Il a dit, moi, j'ai pas de méthode standard pour éduquer les garçons. Il n'y a pas de méthode standard. À partir du moment où l'individu ne veut pas être rééduqué, il ne sera jamais rééduqué. Et il y a des lascars, des fois je discute avec eux, ils s'imaginent que c'est pas viril d'être chrétien, tu rigoles pas. C'est justement le contraire. Si vraiment tu veux être chrétien, quoi, si tu prends les évangiles comme principe, ben, c'est pas tellement facile. Hein. Parce que tu arrives toujours à faire des conneries. Il y avait une prière du père de Foucault, là. Elle est vachement bien, tu sais. Seigneur, pardonnez-moi d'être faible, d'être lâche, de connaître le bien et de le faire si mal, de toujours retomber au même endroit sur la même pierre, d'être si fade, si tiède. Aujourd'hui donc encore, malgré 1000 promesses, je me serai trahi et vous aurez trahi. C'est tous les jours, ça, qu'il faut se le répéter.
Alors Michel Porret, est-ce que ce renvoi que je vous propose avec le Moyen-Âge, le début de l'Ancien Régime, disons jusqu'au début du XVIIIe siècle, avec cette figure du criminel pêcheur, peut-être incorrigible, peut-être récupérable, est-ce que ce rebond vous paraît légitime ?
C'est vrai que c'est une bonne transition pour essayer de comprendre pourquoi, à l'époque moderne, finalement, il n'y a pas véritablement une figure du criminel récidiviste. Si on prend un peu l'histoire européenne, entre le XVIe et les années 1750,
oui.
On est dans un moment où la criminalité, l'homme criminel, le délinquant, le criminel d'habitude, est très souvent qualifié comme un pêcheur. C'est-à-dire quelqu'un, comme le dit votre témoin d'aujourd'hui, quelqu'un qui, pour toute une série de raisons, est tombé dans le mal et a commis une infraction qui est qualifiée pendant très longtemps comme un péché, comme une faute morale. Et ça a une importance extraordinaire sur le système pénal ancien, puisque finalement le système supplicaire qui dure dans la longue durée du XVIe jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, le système supplicaire, d'une certaine manière, que Michel Foucault a mis à la une de Surveiller et punir, c'était pour faire expier justement le criminel comme pêcheur. C'est essentiellement un des grands rôles de la pénalité d'Ancien Régime. ce monde moderne dans lequel le milieu n'est pas un milieu qui est constitutif d'un milieu criminel, dans lequel les individus qui sont arrêtés sont très souvent considérés comme des pécheurs par des magistrats qui sont des magistrats extrêmement chrétiens, il y a une conception de l'individu criminel qui est à chaque fois l'individu lui-même, et pas une sorte d'ensemble de milieux criminels qui permettrait de penser la récidive.
Et chaque fois, le forfait en lui-même, qui n'est pas dans la commission, dans l'exécution, n'est pas aggravé par le forfait antérieur ?
Alors, c'est ce que montrent les archives criminelles. L'accumulation des forfaits antérieurs, on va mettre un bémol, parce qu'il y a deux cas qui montrent qu'il y a quand même un bémol.
Avant le bémol, alors ?
L'accumulation du forfait antérieur n'est pas quelque chose qui aggrave la qualification du crime.
Et pourtant, on marque, alors, la notion de marque, la fleur de lys ou le V pour les voleurs sur l'épaule.
Alors, il y a deux choses qu'il faut distinguer. Il y a d'abord une forme de criminalité qui est très particulière à l'Ancien Régime, sur laquelle il y a beaucoup d'études en ce moment, c'est ce qu'on appelle la criminalité par association. Ce sont les bandes. Ce sont les bandes professionnelles qui, effectivement, opèrent dans les campagnes de l'Ancien Régime, qui, en France, sont traquées par la maréchaussée et qui sont des types, des individus, des gibiers de potence, des soldats mal démobilisés, des nobles déclassés, des vagabonds qui ont mal tourné, etc., et qui sont des criminels professionnels d'habitude, qui sont véritablement ce qu'on appelle la criminalité en association, qui sont l'objet d'une justice expéditive qui a deux issues, c'est soit la peine de mort, soit les galères. Et ces individus-là sont très souvent marqués parce qu'on veut, s'ils reviennent des galères, ou s'ils, puisqu'il n'y a pas d'autre système que les galères finalement et la peine de mort, il n'y a pas beaucoup de prisons sous l'Ancien Régime, on y reviendra parce que c'est très important de comprendre que la prison a été une institution constitutive de la conscience de la récidive, puisqu'elle permettait de mesurer celui qui entre, celui qui sort, celui qui revient, celui qui ressort, celui qui revient.
Alors que vos bandes, on est d'une bande en quelque sorte définitivement.
Alors quand on est dans une bande, quand on fait partie de ces criminels associés, il y a effectivement un discours qui émerge, qui frémit, il y a eu quelques travaux autour de ces bandits, qui fait que la notion de criminel endurci, d'endurci dans le mal, se focalise sur ce type de criminalité professionnelle qui est extrêmement dangereuse, qui sévit dans les campagnes, qui attaque les paysans isolés, qui attaque les femmes, qui attaque l'État sur le transport des marchandises sur la grande route. Donc c'est vraiment une sorte de criminalité pré-professionnelle dans laquelle il y a déjà, je dirais, que se construit un discours sur la récidive.
Et donc endurci, ça veut dire qu'on est définitivement et jusqu'à sa propre disparition criminel sans qu'on puisse d'aucune façon être guéri de cette potentialité d'accomplissement du mal.
C'est la potentialité de se retrouver en permanence sur la potence, exactement, et on y échappe très peu lorsqu'on est configuré dans ces bandes d'Ancien Régime.
On les punit pour appartenance à cette bande. C'est déjà la loi anti-casseur que nous avons connue en France dans les années 70.
C'est par exemple la juridiction sans appel de la maréchaussée, puisque la plupart de ces individus en bande sont soit envoyés aux galères, qui est une peine de mort sèche, ou soit exécutés par la corde.
Alors ça, c'est un premier aspect des choses.
Alors ça, c'est un aspect important sur ce milieu qui n'existe pas encore, mais qui se structure et qui est véritablement un milieu qui fait régner une très grosse insécurité, notamment sur les campagnes. Et d'autre part, il y a une figure qui est très intéressante, parce que cette figure va, je dirais, condenser et focaliser tout le discours moral de la façon d'être pas récupérable. Ce sont les vagabonds d'habitude, ce sont les mendiants, ce sont des individus qui traînent entre les villes d'Ancien Régime et qui font passer très lentement l'incivilité, la petite criminalité, le petit vol, à une conception d'un voleur, je dirais, moral, hein, à quelque chose qui devient de plus en plus un danger social inhérent à la société d'Ancien Régime. Et sur ces individus, qui très souvent sont l'objet de mesures de police, d'enfermement, de mise dans des maisons de correction avant la date, sur ces individus se construit un discours pré-sécuritaire sur le fait qu'ils sont des mendiants récidivistes, des vagabonds récidivistes. Ce n'est pas véritablement des crimes, c'est une petite insécurité inhérente à la société d'Ancien Régime et qui structure un discours criminologique que petit à petit, et le grand tournant, on y reviendra certainement, ça va être entre les années 1750 et 1770, que petit à petit, ces quelques figures, le bandit, le vagabond, deviennent des figures qui permettent à la société d'Ancien Régime de produire un discours sur la dangerosité.
En somme, vous nous dites que la notion de récidive qui émerge à ce moment-là dans la conscience générale et dans l'attitude de la justice et de la magistrature naît de la petite criminalité, des petits méfaits répétitifs.
On a une pénalité qui élimine les grands criminels, donc ils ne peuvent pas être des récidivistes. Et puis on a une pénalité qui, petit à petit, commence de réfléchir à des situations sociales qui sont des situations sociales soit de grande dangerosité les brigands, ou alors d'une insécurité urbaine liée à la mendicité, au vagabondage, etc.
Et c'est là qu'émerge, en somme, la place de la prison dans le châtiment. Vous le disiez il y a un instant, ce n'était pas très important, c'était la mort ou les galères, l'éloignement, et la prison arrive, et c'est finalement ce 18e siècle qui joue un rôle essentiel, et avec une réflexion déjà sur les effets de la prison. Est-ce que c'est une séclusion par rapport à la société ou est-ce que c'est un moyen de réhabilitation? Je vais d'ailleurs vous faire entendre une interview qui est celle d'un personnage qui a eu son heure de célébrité, Roger Knobelpis, qui avait été gracié par le président Mitterrand peu après son accession à l'Élysée, qui avait commis un certain nombre de forfaits, qui était devenu pour beaucoup d'intellectuels une sorte de symbole de celui qui avait été en quelque sorte abîmé par la prison et qui aurait pu en sortir. Vous allez entendre un extrait de Radioscopie de décembre 1980, Radioscopie de Jacques Chancel, un mois après sa grâce, et ensuite, deux ans plus tard, un peu moins de deux ans plus tard, une interview de Michel Foucault qui vient encore le soutenir après que il a accompli un nouveau méfait et que par conséquent, il est à nouveau inculpé. Cette fois-ci, c'est un extrait du journal d'Inter, 8 juin 1983.
Moi, j'étais un irrécupérable. J'ai toujours été classé par les psychiatres comme un irrécupérable, par les policiers comme un irrécupérable, par les juges comme un irrécupérable. Et puis, bah, aujourd'hui, je suis tout à fait récupéré. Vous savez, moi, je suis contre toute forme de pouvoir. Mais malgré tout, j'ai quand même une certaine sympathie pour le pouvoir socialiste. Il faut dire aussi que j'étais incarcéré sous De Gaulle, j'étais incarcéré sous Pompidou, j'ai été incarcéré sous Giscard d'Estaing, et j'étais délivré sous Mitterrand, comme la peine de mort a été supprimée sous Mitterrand. Bon, de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est l'homme de, pour moi, c'est l'homme des libertés. Je souhaiterais peut-être un jour m'entretenir avec des responsables, qu'ils m'entendent, moi aussi.
Nous avons eu raison, nous avons eu terriblement raison, et malheureusement raison. Voilà maintenant 10 ans que je dis que la prison qui devrait amender les délinquants, qui devrait permettre leur réinsertion, ne fait que les détruire et les rendre plus dangereux à la sortie qu'ils n'étaient à l'entrée. Je ne sais pas si ce qu'on reproche actuellement à Knobelspies est exact ou non, mais si le malheur voulait qu'en effet il ait commis les actes qu'on lui reproche, eh bien ça serait l'exacte confirmation de ce que nous avons dit. Nous avons dit que quelqu'un comme Knobelspies a commis un délit d'importance très moyenne. Il a été condamné trop lourdement. Nous l'avons dit, le président de la cour d'assises l'a dit, les jurés eux-mêmes l'ont dit. Eh bien, l'expérience maintenant semble prouver que nous avions malheureusement raison.
Alors, actualité de ce propos, renvoi éventuel à ce 18e siècle, Michel Porret, qui vous paraît un moment, bien avant la Révolution, un moment de basculement absolument essentiel avec les encyclopédistes, avec le grand Beccaria, auquel vous avez consacré un ouvrage.
Je pense que le tournant des années 1750-1790 est extrêmement important, pour deux raisons. Tout d'abord, on sort, un tout petit peu en Europe, d'une philosophie pénale morale pour une philosophie pénale sociale. Le pêcheur, le criminel comme pêcheur, est une figure, je dirais, qui devient anachronique après les années 1760-1770. Évidemment, Beccaria a joué un rôle considérable dans une sécularisation de la pensée pénale et dans une socialisation de la pensée pénale.
Rappelez-nous qui était Beccaria.
Alors Beccaria, le grand réformateur milanais, aristocrate, ami des philosophes, lecteur de l'encyclopédie, lecteur de Maupertuis, lecteur de Montesquieu, publie en 1764 un petit pamphlet en italien qui s'appelle « Des délits et des peines » qui va mettre à l'ordre du jour un nouveau paradigme pénal dans l'Europe des Lumières. Il y a plusieurs entrées dans ce paradigme pénal, mais il y a une entrée qui est intéressante par rapport à notre propos, c'est que le criminel ne peut plus être considéré comme un pécheur. Le crime n'est pas une faute morale, le crime résulte, selon Beccaria, qui est un lecteur de Rousseau, d'une mauvaise organisation sociale du monde qui l'entoure. Donc le crime est pensé chez Beccaria comme une infraction sociale. Le vol, c'est pas parce qu'on est né pêcheur qu'on est voleur, c'est parce que finalement, dans le Milanais, en France, etc., l'organisation des biens matériels est telle qu'il y a des individus qui sont acculés au vol. Donc on voit un tout petit peu l'idéologie pré-sociale qu'il y a chez Beccaria.
Et ça a forcément une conséquence très directe sur la réflexion quant à la récidive dont nous parlons ce matin.
Alors c'est une conséquence sur deux choses. D'abord, c'est une conséquence sur la philosophie pénale. Puisque le crime est une infraction sociale, il faut un instrument de correction, et Beccaria sera un des premiers théoriciens, je dirais, de l'idéologie carcérale, de l'idéologie du travail forcé. Beccaria est un des tout premiers en Europe qui propose l'abolition définitive et immédiate de la peine de mort pour les crimes de droit commun, pas pour les crimes politiques. Et bien évidemment, avec cette socialisation, avec cette idée que le criminel n'est pas un pêcheur, il faut quelque part que l'État mette en place une institution qui permette de récupérer celui qui a commis une infraction sociale qui est un vol pour le rééduquer.
C'est ainsi que la privation de liberté va se substituer à la stigmatisation sur le corps avec la marque sur l'épaule ou d'ailleurs les sorias, c'est-à-dire couper les deux oreilles ou l'une.
Il y a un basculement d'une culture supplicière à une culture carcérale. Et ce basculement d'une culture supplicière à une culture carcérale, dans la pensée du réformateur milanais Beccaria, bien évidemment, est une très belle entrée pour réfléchir à la récidive, puisque si on met en place une institution de type carcéral, on a l'institution qui permettra de mesurer effectivement l'efficacité de la peine. Donc Beccaria est dans un paradoxe, d'une certaine manière. Il a publié un livre qui a permis aux magistrats de l'Europe d'Ancien Régime, ceux qui l'approuvent, ceux qui le désapprouvent, de réfléchir sur leurs pratiques, de réfléchir pour aller vers une modération. On peut dire que Beccaria est un des premiers penseurs de la pénalité pour l'état de droit, un code pénal, la légalité, la prison, plus de peine de mort. Donc ce seront les grands acquis de la Révolution. Et puis d'une autre manière, Beccaria insiste sur cette dimension dont on parle beaucoup ici, c'est-à-dire puisque le criminel est un homme social, il y a une institution qui mesure sa réadaptation sociale. Et lorsqu'on mesure la réadaptation sociale, mais on mesure aussi les écarts à cette réadaptation, donc on mesure la récidive. Donc il est, d'une certaine manière, Beccaria, il est un des penseurs des théories criminologiques. Il y a même un historien américain, peu importe, qui a écrit un livre sur l'invention de la criminologie chez Beccaria, c'est-à-dire le criminel comme homme social. Il est à l'origine, je dirais, d'une grosse tendance qui va exploser au XIXe siècle, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser au comportement de celui qui a été jugé et enfermé pour un crime, et non plus seulement, comme on le faisait sous l'Ancien Régime, au crime lui-même.
Et alors ça conduit Beccaria et ses élèves, ses disciples, à ne pas exclure ce qu'on appelle aujourd'hui la rétention. Et au fond, sans que peut-être M. Sarkozy, je ne veux pas être insolent, le sache, Beccaria peut apparaître, c'est assez flatteur d'ailleurs, comme un de ses ancêtres, puisqu'un des disciples de Beccaria, Michel-Antoine Servan, qui était un fameux avocat général au Parlement de Grenoble, avait expliqué, il s'agit de son discours sur l'administration de la justice criminelle, on est en 1767, oui. Il disait « Retenir à l'avenir non seulement le coupable, mais ceux qui seraient tentés de l'imiter », voilà qui n'était pas pour lui choquant. Alors Beccaria, qui est cette figure lumineuse du point de vue des libertés publiques, est-ce qu'il faut éventuellement apporter un bémol, comme vous dites ?
Il ne faut pas apporter un bémol, il faut introduire un paramètre extrêmement compliqué, c'est la prison. Et il ne faut pas oublier que dans la tête des réformateurs de la fin du XVIIIe siècle, dans la tête des philanthropes de la monarchie de Juillet, dans la tête des libéraux sous la Révolution française, cette prison est une institution de progrès social. Est une institution qui, d'abord, et on l'oublie trop souvent lorsqu'on dissocie la prison du système pénal duquel on sortait à la fin de l'Ancien Régime, c'est la prison contre le supplice. Je dirais, c'est enfin un espace dans lequel on ne détruit plus le corps de l'homme criminel, bien qu'on doit évidemment le détenir quelque part, mais qu'on va corriger une fois qu'il a été jugé selon la loi. C'est le code pénal de 1791 et de 1810, qui sont vraiment les socles de l'expérience carcérale, notamment en France au XIXe siècle. C'est au nom de cette loi, il y a un lieu qui s'appelle la prison, lequel lieu est investi de tout un programme de rééducation, d'amendement, de remise au travail, de resocialisation.
Un progrès philanthropique dans l'esprit de...
Ah oui, ça, le début de l'histoire de la prison républicaine, c'est vraiment tourner la page enfin à trois siècles de supplice. Or, et c'est là où on revient sur notre sujet, la prison, à partir du début du XIXe siècle, devient un cadre de vie tellement insupportable, tellement, je dirais, dégradant, tellement le parent pauvre des budgets publics, etc., que c'est dans cette prison qui a été pensée par les réformateurs des Lumières comme le lieu de la régénération de l'homme criminel, de son retour vers le contrat social, qui va être le lieu dans lequel une grande partie de l'armée de l'ombre que sont les récidivistes vont trouver les lieux de leur reproduction. Donc tout ça pour le dire en deux mots, il y a une prison pensée à la fin du XVIIIe siècle qui met fin à la culture supplicière, qui met fin à ce système pénal d'Ancien Régime parce qu'on veut essayer de resocialiser l'homme, de le remettre, je dirais, dans le monde par le travail, par l'éducation, par la religion. Et puis il y a une prison dont la situation sociale est telle à partir du début du XIXe siècle, qu'elle devient la catastrophe du système pénal démocratique jusqu'au XXIe siècle.
Et source, en fait, de récidives. Et si on braque d'ailleurs l'attention sur ces années, par définition, ces années tournantes de la Révolution, puis de l'Empire, on s'aperçoit qu'elles sont, de ce point de vue-là, fort ambivalentes. Si on s'intéresse, par exemple, au rôle et à l'influence d'un homme comme Le Pelletier de Saint-Fargeau, qui était un des parlementaires les plus influents à cet égard, on est très frappé de cela, non ?
Le grand XIXe siècle, sur le plan pénal, est rempli de contradictions. Il y a d'abord quelque chose de tout à fait nouveau, c'est qu'il y a beaucoup plus de sécurité, de certitude contre l'arbitraire d'Ancien Régime avec le code pénal de 1791, du 1810 surtout. On est dans quelque chose qui est renforcé, qui renforce l'espace démocratique. D'autre part, il y a au XIXe siècle, et ça va avoir un effet énorme sur la préoccupation récidivante, puisque la récidive finalement est définie légalement par le code pénal de 1810, c'est la statistique criminelle. La statistique criminelle qui va écraser les pratiques criminologiques et pénales tout au long du XIXe siècle, le fameux compte sur la justice. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce compte général sur la justice ? C'est qu'on peut commencer de mesurer, je dirais, ceux qui reviennent sans arrêt.
Début d'une obsession statistique.
Alors l'obsession statistique qui commence au début du XIXe siècle a deux implications. C'est que la statistique est un formidable instrument de contrôle social. On sait qui sort de prison, qui revient, quel crime a été commis, etc. Et puis à partir de ça, on peut commencer de calculer qu'il y en a qui reviennent plus souvent que d'autres. D'où la mise en place d'une sorte d'épistémologie ou de cognitif de la récidive. C'est parce que les chiffres de la statistique sont utilisables dans ce sens-là qu'on peut commencer à construire ce discours extrêmement dur qui va aboutir à la loi de 1885 sur la déportation en France. La relégation en France. C'est-à-dire qu'il y a des individus qui sont irréductiblement criminel. Ce n'est pas une nature de l'homme que ces individus sont de manière criminelle ou sont par nature criminels, c'est que simplement, on a un formidable instrument qui permet de mesurer ça. Et c'est la grosse rupture avec l'Ancien Régime, parce que sous l'Ancien Régime, on n'a aucun instrument, l'État n'a pas d'instrument pour mesurer ce type de problématique.
Cela, d'ailleurs, me paraît s'inscrire à l'intérieur d'un mouvement plus large encore, qui est le mouvement qui tâche de rendre la société transparente à elle-même. Et à cet égard, évidemment, Jeremy Bentham, l'anglais, avec son panoptique, a une figure absolument centrale.
C'est quelqu'un, effectivement, qui propose ce modèle de prison absolument parfait, c'est-à-dire, peut-être qu'il faut rappeler que le panopticon est une prison qui est construite sur un principe utilitariste extraordinaire. C'est un mur circulaire de cellules au milieu duquel il y a une tour, dans laquelle tour se trouve un inspecteur. Et en fait, l'idée de Bentham, qui était une idée économique, les détenus du mur périphérique qui sont composés de cellules sont tellement habitués à être observés par un inspecteur qu'au bout d'un certain temps, ils auront intériorisé l'idée d'être observés et on pourra économiquement supprimer l'inspecteur. Et le panopticum fonctionnera par lui-même parce que chacun dans la cellule pense qu'il est observé. Puisque de la cellule à la tour centrale, on ne voit pas ce qui se passe. Par contre, depuis la tour centrale, on voit ce qui se passe dans chaque cellule. Donc c'est une utopie carcérale. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont écrit maintenant que Bentham avait proposé une utopie carcérale au moment même où la prison est politiquement discutée comme l'issue de l'Ancien Régime. Alors remettre Bentham ici, c'est tout à fait intéressant parce que finalement, l'implication ultime du panopticon, c'est ressortir de la prison régénérée et c'est vivre en permanence avec l'idée qu'il y a quelque part, et c'était la grande idée un peu peut-être forte de Michel Foucault, qu'il y a quelque part un système de contrôle social qui fonctionne parfaitement parce qu'on a intériorisé le fait, dans le panoptique, qu'on était surveillé à chaque seconde. C'est une sorte d'école extraordinaire, cette prison idéale de Bentham, pour faire qu'on ressorte de la prison tellement bien régénérée que finalement la récidive disparaît. Et c'est une utopie.
Et donc c'est là que cette utopie rejoint ce grand débat qui a été l'occasion de notre rencontre, Michel Porès, sur la légitimité qu'il peut y avoir dans un régime marqué par les Lumières, un régime qui défend les libertés publiques, la légitimité ou non de mettre en prison des gens non pas pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils risqueraient de faire. J'en parlais en commençant, mais il y a quelqu'un qui l'a dit avec beaucoup plus d'efficacité, c'est Robert Badinter. Au moment de la loi sur la rétention de sûreté, il s'exprimait au Matin de France Culture le 27 février 2008. Et je vais vous demander ensuite de commenter ce propos.
Nous avons maintenant dans notre droit une mesure qui prévoit qu'on peut demeurer en prison, non pas pour ce qu'on a fait, non pas pour les infractions qu'on aurait commises, mais parce qu'on est réputé dangereux et susceptible de réitérer. Et cela, en matière pénale, depuis la Révolution française, ça ne s'était jamais vu. Alors je me suis opposé à cela. Je considère que dans un état de droit comme le nôtre, chacun doit répondre de ses actes, et le cas échéant avec la plus extrême fermeté quand ses actes sont graves, mais de ses actes tels que la loi les définit. Pas de son état dangereux, concept impossible véritablement à déterminer. Répondre de ses actes, c'est une justice de liberté, c'est prendre en compte la responsabilité de l'être humain sur lequel est fondée toute la société de liberté. Répondre d'un état qui est le sien, dont on ne sait pas ce qu'il est et qu'on décèle par la voie psychiatrique, on entre dans une justice de sûreté, et à partir de ce moment-là, nous savons ce qui peut en advenir. C'est pourquoi c'est tellement important sur le plan des principes, parce que ça ouvre la voie à toutes les dérives. Et je n'accepterai, moi, jamais qu'on se rallie à une justice de sûreté. Je n'accepterai jamais qu'on puisse dire « cet être humain, il a commis une infraction, il a été condamné, il a fini sa peine, on disait jadis purger sa dette à la société, ça ne fait rien, nous le gardons. » Comme dans les sociétés totalitaires, parce que nous considérons qu'il porte en lui une dangerosité. Je rappelle que pour qu'il ait été condamné, il fallait qu'il soit considéré comme responsable. Et c'est cet homme considéré comme responsable qu'en fin de parcours, on examine et on dit non, vous n'êtes pas capable de répondre de vos actes. Vous portez en vous des pulsions telles qu'on ne peut pas vous laisser en liberté. Lorsque-là, pourquoi l'a-t-on jugé et condamné comme responsable? Cette contradiction formidable sur le plan des principes d'une société est d'une importance extrême.
Si on croit, Michel Poret, à l'utilité d'un contre-gouvernement en démocratie, il est clair qu'après avoir été garde des Sceaux de François Mitterrand, Robert Badinter est le contre-garde des Sceaux en face de Rachida Dati qui a porté cette loi sur la rétention. Quelle réflexion inspire-t-il à l'historien que vous êtes, l'historien de la récidive?
Évidemment, très riche, très compliqué. On pourrait dire qu'il y a un optimisme beccarien qui continue d'animer la pensée de Badinter.
Beccaria, Badinter, même combat.
Ben oui, d'ailleurs, dans le livre sur l'abolition, il rend hommage extraordinairement à Beccaria. Le problème social, le problème politique maintenant, est-ce que ce type de discours, ce qu'on pourrait qualifier héritier des Lumières, d'humanisme pénal, et d'humanisme pénal fondateur de l'état de droit, qui rappelle que la justice pénale, contrairement à ce que proclament les associations de victimes qui font du tintamarre dans les cours d'assises, que le droit pénal n'a qu'une finalité, c'est de sanctionner, de neutraliser. Et au-delà de cette sanction, de cette neutralisation, il n'a pas à rendre compte d'une certaine manière, il n'a pas à traduire dans une continuité, je vais revenir sur la dangerosité, dans une continuité d'application de la peine, ce que les associations de victimes réclament de plus en plus et qui sont à l'origine un peu partout en Europe du durcissement pénal depuis une quinzaine d'années.
Par exemple, dans la votation récente en Suisse, l'influence des associations de victimes a été extrêmement lourde.
Déterminante. Déterminante, c'est-à-dire que la justice est laxiste, on relâche. Il y a ce premier élément, et puis il y a un deuxième élément qui est aussi associé à tout ce qu'on a dit sur la prison depuis le début de cette émission. Il y a l'idée qui est indécrottable de la conscience collective d'une partie de l'opinion publique, c'est que la peine doit faire souffrir et qu'il y a une équivalence entre le crime qui a été commis et la souffrance dans la peine. Ça, c'est quelque chose qu'on a appelé sous l'Ancien Régime la stigmatisation, l'infamie. Je crois que c'est quelque chose qui ne disparaît pas de la conscience. Maintenant, il y a quelque chose de très intéressant dans le commentaire, dans cet humanisme extraordinaire pénal que continue d'incarner Badinter, c'est la dangerosité. Et la dangerosité, elle est fortement liée à la thématique qui nous réunit, la récidive. Parce que nous étions en train de parler du 19e siècle tout à l'heure, en montrant qu'on est entré dans une grande période d'obsession récidivante. Qu'est-ce qui se déploie au 19e siècle depuis le début, depuis les années 1810, 1820, 1830? C'est tout un dispositif de savoir sur le crime, médecine légale, police scientifique, criminologie, qui petit à petit essaye d'élaborer des réponses extrêmement précises, extrêmement scientifiques sur le comportement criminel.
Mais vous citez toutes sortes de procédés après le célèbre Bertillon, inventeur des empreintes, bertillonnage, photographie, portraits parlés, notations chromatiques, marques corporelles, anthropométrie, empreintes papillaires, dactyloscopie, c'est-à-dire les doigts, identification psychique, fiches signalétiques de semis, etc., etc.
Donc il y a une espèce de dispositif positiviste scientifique extraordinaire qui a deux obsessions. C'est d'abord classer les individus, classer leur dangerosité, c'est un mot qui s'invente au XIXe siècle, c'est-à-dire classer leur potentialité à repasser à l'acte. Et puis d'autre part, avoir tellement d'informations à disposition de la police par des moyens scientifiques, vous venez de les rappeler, c'est que le moindre frémissement, on peut retrouver l'individu en fonction de l'accumulation des indices matériels qu'on a dans les fichiers centraux, dans les laboratoires, etc. Donc je crois que si on a dit que le 19e siècle était le siècle de l'obsession de la récidive, s'ajoute effectivement cette montée en puissance extraordinaire des savoirs criminologiques qui font que l'individu, tout d'un coup, est autopsié dans toute sa composante physique et mentale, et qu'à partir de cette autopsie, on a un rêve absolument idéal, c'est qu'il ne pourra plus, une fois qu'on l'a arrêté, une fois qu'il aura purgé sa peine, il y aura tellement d'éléments accumulés sur lui qu'idéalement, il ne pourra jamais repasser à l'acte. Et on est un tout petit peu dans le même imaginaire benthamien, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement utopiste qui fait qu'on imagine qu'une fois, définitivement, on pourra éliminer la criminalité dans les sociétés.
Et pourtant, on n'y arrive pas. Et c'est pour ça qu'on vote la loi de 1885 sur la relégation, concerne précisément les individus qui échapperont à cet optimisme, à certains égards, béat, celui que vous venez de résumer, ou que vous venez d'évoquer les racines.
Cette loi est compliquée parce qu'elle est d'une part effectivement contre, il faudrait encore ajouter un tout petit chapitre, c'est-à-dire qu'il y a une grande peur au 19e siècle. Il y a une peur envers ce qu'on appelle les classes laborieuses et les classes dangereuses.
L'expression de Louis Chevalier, historien de ces choses.
Exactement. Il y a quand même un monde qui s'urbanise énormément. Il y a des attachements traditionnels qui se défont avec l'industrialisation. Donc il y a un monde social qui est bouleversé au 19e siècle. Il y a la fin de ce qui a fait que l'ancien régime a tenu dans quelque chose d'extraordinaire, c'était l'interconnaissance des individus. Il n'y a plus d'interconnaissance, ou très peu au 19e siècle. Il y a toute une série d'éléments, il y a une cohérence des sentiments, il y a une cohérence des sensibilités qui fait que finalement, dans cette ville qui se bouleverse, dans cette sensibilité bourgeoise qui est dominante dans toute l'Europe libérale du 19e siècle, il y a des figures inquiétantes qui sont ceux des récidivistes, qui sont ceux de ces types qui entrent dans les villes, qui ressortent, qui vivent dans les faubourgs, qui sont associés, je dirais, socialement à des éléments pathogènes de la ville au 19e siècle. Et je crois que si le 19e siècle a été comme ça marqué par cette obsession de la récidive, il y a ces éléments, je dirais, de culture urbaine, de culture matérielle, sur lesquels s'ajoutent ces savoirs sur le crime que sont la criminologie et qui est véritablement, qui était obsédée par la façon de neutraliser la récidive. C'est assez intéressant de voir que tous ces éléments, Badinter parle de dangerosité, d'état de sécurité, etc., la psychiatrie, qui est la grande invention criminologique du 19e siècle, donc on voit qu'il il réfléchit sur une culture qui se condense maintenant et qui ressort dans ce moment très dur du tout sécuritaire que nous sommes en train de vivre partout en Europe.
C'est d'ailleurs après la loi de 1885 sur la relégation que survient la fameuse série de crimes de Vacher qui a fait frémir toute la France et que, comme on sait, Bertrand Tavernier a repris dans un de ses plus beaux films, un des premiers d'ailleurs, de 1976, Le juge et l'assassin. Vacher devient Bouvier et c'est un personnage qui, après avoir été blessé, s'être blessé par des balles dans la tête, est devenu un peu étrange. Il s'agit de savoir s'il est fou ou s'il ne l'est pas. Il commet des crimes et ensuite tout le film est construit sur le dialogue entre Bouvier, incarné par Michel Galabru, et le juge, incarné par Philippe Noiret. Je vais vous faire entendre la chanson du film, La complainte de Bouvier, qui est interprétée par Jean-Roger Caussimon.
Petit berger, jolie bergère, innocent joueur de pipeau, quand vos moutons se désaltèrent à l'onde claire d'un ruisseau. Dans les roseaux, dans les fougères, vous redoutez de voir le loup ravir un agneau tout à coup et l'emporter dans sa tanière. Mais il est le plus grand danger auquel vous n'avez pas songé. Il existe des bêtes pires que le tigre altéré de sang, plus funeste que le vampire et plus traître que le serpent. Ce sont les fous qui violentent et signent leur acte pervers en taillant à même la chair de leurs victimes innocentes. C'est au comble de cette horreur que parvint Bouvier l'éventreur. Bouvier est bien de cette engeance de trimardeurs de cheminots, mendiant le gîte et la pitance, anarchistes et marginaux. À la moisson et au vendange, on le voit hanter les hameaux, cachant toujours sous son chapeau son regard aux lueurs étranges. Il paraît pourtant bon garçon quand il joue de l'accordéon. Il fit ainsi un long périple, revenant parfois sur ses pas, commettant des crimes multiples jusqu'au jour où on l'arrêta. Pour que ma complainte finisse, j'attends l'issue du jugement. Dans notre pays, la justice ne se trompe que rarement. Donc, bonnes gens, faites confiance aux enquêteurs, aux magistrats, au tribunal qui jugera celui qui fit trembler la France. En attendant que les geôliers veillent nuit et jour sur Bouvier.
Michel Porret, quelles conséquences tirez-vous de cette affaire Vacher du point de vue de l'histoire de la récidive à la fin du 19e siècle et au-delà ?
La première chose à quoi on pense lorsqu'on écoute cette complainte, c'est d'abord la continuité d'un genre. La complainte est quelque chose qui est hérité d'anciens régimes, c'est-à-dire que les grands criminels, c'est ce qu'on appelait la littérature d'échafaud, les canards, c'est-à-dire continuent de perpétuer, au-delà de la sanction, l'image d'une façon extrêmement ambiguë, ce qu'on appelait l'image du transgresseur. Donc ça, c'est le premier élément qui est intéressant, c'est la continuité culturelle autour finalement de l'irréductible.
Et qui touche les couches populaires en profondeur.
Qui touche profondément le peuple, d'une certaine manière. On oublie très souvent, lorsqu'on discute sur la justice pénale, qu'il y a derrière la sensibilité pénale une vindicte populaire extrêmement dure, et que la criminalité la plus violente, et c'est très souvent une criminalité de type horizontal, hein, on se vole entre pauvres, d'une certaine manière. Les Arsène Lupin ne sont pas extrêmement nombreux dans le monde contemporain. Il y a quelques Arsène Lupin dans les milieux financiers qui sont très habiles, mais les Arsène Lupin, c'est-à-dire qui font de la criminalité verticale, c'est assez rare. Lorsqu'on regarde les sources criminelles, je le dis souvent à mes étudiants, les sources criminelles d'Ancien Régime et du 19e siècle, c'est vraiment les sources de la souffrance sociale. Hein. Donc ça, c'est important. Deuxième élément, dans cette fin du 19e siècle, avec ce 19e siècle qui est terrorisé par le récidiviste, ici c'est ce type qui circule, qui assassine des bergers, etc., il ne faut pas oublier que ce qui contribue à construire un sentiment d'insécurité dans des populations urbaines, c'est la surmédiatisation des faits divers criminels. Une des grandes questions qu'on peut poser aux organes de presse actuellement, de télévision, de journaux, etc., pourquoi on surmédiatise le fait divers ?
Beaucoup plus efficace de ce point de vue-là que les complaintes d'autrefois qui circulaient portées de village en village par les colporteurs.
Exactement, sur des petites feuilles. Et c'est vrai que l'affaire Vacher qui est mise dans cette complainte, c'est quoi ? C'est le petit journal, c'est l'œil de la police, c'est des journaux qui ont des tirages énormes et qui, d'une certaine manière, informe en permanence sur des figures extrêmement inquiétantes qui échappent à la police, c'est-à-dire qui mettent en échec les techniques de police modernes qui s'inventent à la fin du 19e siècle, qui fait que la ville, au crépuscule, la ville est peuplée. Je pense à une extraordinaire couverture du Petit Journal lorsqu'on essaye d'abolir la peine de mort, je crois que c'est en 1908 ou 1909 à Paris.
Après l'affaire Soleillant, c'est
exactement. Et l'image du Petit Journal, c'est un bourgeois qui se promène sur un des grands boulevards de Paris, Dans son dos, il y a un Apache qui prépare son poignard. Et on voit, d'après la façon dont cet Apache est représenté, que ce n'est pas son coup d'essai. Et puis tout d'un coup...
Récidiviste.
C'est un récidiviste, notoire. Et tout d'un coup, de son esprit, et le graphisme est extraordinaire, apparaît au-dessus du trottoir, d'une manière virtuelle, une guillotine. Et au moment où il va s'apprêter à poignarder le bourgeois qui prend l'air sur un grand boulevard parisien, l'image de la guillotine le retient. Donc pourquoi je dis ça? Le Petit Journal était extrêmement habile dans cette construction sociale de l'imaginaire insécuritaire. C'est qui, je crois que toutes nos discussions le montrent très bien. Finalement, le récidiviste, que ce soit ces types mal connus d'Ancien Régime, ce dangereux du 19e siècle, le criminel sexuel aujourd'hui, le récidiviste, au-delà de sa figure sociale, qu'est-ce que c'est? C'est une extraordinaire miniature humaine pour penser la philosophie pénale d'une société. Et je crois que c'est ça, je dirais, si on devait ramener la problématique sur la figure historique du criminel endurci, qui n'est jamais la même. Par contre, ce qui est très structurant autour de cette figure, c'est qu'on peut questionner de façon très fine la philosophie pénale et les valeurs d'une société.
De ce point de vue-là, la Troisième République se révèle, si je vous comprends bien, sur ce fond de paysage, en particulier par cette fameuse loi de 1885 sur la relégation que vous avez à plusieurs reprises évoquée, mais dont vous ne nous avez pas dit la philosophie profonde.
La philosophie profonde de cette loi de 1885, donc, qui est à la fois portée par cette sensibilité, cette angoisse récidivante dans la ville, mais c'est aussi, me semble-t-il, est-ce que ce n'est pas aussi fondé, finalement, une république qui connaît ses chaos depuis la fin de la Commune? Est-ce que ce n'est pas aussi fondé une république sur des bases sociales extrêmement saines?
Relégué, ça veut dire qu'on envoie.
Alors, il faut rappeler deux choses. C'est-à-dire que le bagne métropolitain est supprimé en 1854, en 1853. Il y a une période d'une trentaine d'années, on ne sait pas tellement quoi faire de ces types. Et puis, il y a cette idée extraordinaire, dans un État qui est profondément colonial, à la fin du 19e siècle, d'utiliser l'espace colonial pour déporter finalement ceux que la métropole ne peut plus tolérer.
Transportation des récidivistes, comme on l'avait fait pour les communards d'ailleurs en 1871 du côté de la Nouvelle-Calédonie.
Exactement.
Constamment, on trouve chez ces bourgeois au pouvoir la justification que vous disiez, c'est-à-dire le fait que ce sont les couches populaires qui demandent le plus à cet égard. Valdez-Crousseau. En 1885, le grand Valdez-Crousseau, celui qui ramènera la paix après l'affaire Dreyfus et qui installera définitivement entre 1899 et 1902, je crois, la Troisième République après les menaces qui ont pesé sur elle. Valdez-Crousseau, ministre de l'Intérieur, porte ses lois de 1885 et il explique que c'est au profit des couches populaires qu'il défend ce texte. Il dit « c'est dans ces couches populaires qu'on réclame avec le plus d'ardeur la transportation des récidivistes, parce que c'est là qu'on souffre le plus de cette plaie sociale. Ce ne sont pas les fils de la bourgeoisie qui en souffrent le plus, ce sont les fils des travailleurs, ceux qui vivent dans un contact forcé avec ces parvenus de la police correctionnelle et du crime et qui souffrent de la flétrissure que leur inflige ce contact odieux. » Avec toute la beauté de la rhétorique de la Troisième République, ce sont des propos qu'on pourrait assez aisément retrouver dans des bouches autorisées aujourd'hui, non, Michel Porret?
Dans cet imaginaire républicain de la fin du 19e siècle, c'est vraiment un diagnostic sur la contamination de l'ouvrier honnête et puis presque du lumpen prolétariat, en fait.
D'ailleurs, dans votre livre, vous rapprochez ce propos de Valdez-Crousseau d'un propos de Lionel Jospin dans Paris Match, le 11 avril 2002, il est en campagne, où il dit « Je ne vois pas pourquoi il y aurait dans ce que vous appelez l'idéologie de la gauche, et en tout cas dans ses valeurs, une indulgence particulière à l'égard de la violence, d'autant, disait-il, qu'en règle générale, ce sont plutôt les quartiers défavorisés qui subissent la multiplication de ces actes et où vivent ceux qui en sont les victimes. » Fin de citation.
Oui, je crois que c'est une donnée permanente. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi il continue d'y avoir des quartiers défavorisés. Mais ça, c'est une autre question qu'on pourrait poser sur le politique. Mais cette idée qui est bien connue des historiens de la justice, que la criminalité dont on parle aujourd'hui est une criminalité qui est socialement horizontale, finalement, les plus pauvres payent une sorte de surpoids encore de l'existence en étant les victimes potentielles des criminels récidivistes ou non. Ça, c'est évident.
D'où le succès de la votation, comme on dit chez vous en Suisse, récente, qui a installé en fait un emprisonnement définitif et qui repose le problème constant de savoir si on peut mettre des gens en prison pour des crimes qu'ils n'ont pas encore connus, qu'ils pourraient connaître. À cet égard, Il y a un très beau livre de Philip K. Dick qui a donné le film de Spielberg avec Tom Cruise qui s'appelle Minority Report. C'est la mode actuelle, on ne traduit plus les titres en anglais. Et qui imagine que dans 50 ans, il y aurait un dispositif qui permettrait, grâce à des pré-cog cognitifs, vous employez tout à l'heure ce mot, l'arrestation de criminels avant que le crime lui-même soit perpétué. Et en voici un petit extrait de ce film, vous le commenterez ensuite.
Imaginez un monde sans meurtre.
J'ai perdu mon meilleur ami.
J'ai perdu ma tante.
J'ai perdu mon papa.
J'ai perdu mon père.
J'ai perdu ma femme.
Il y a 6 ans, le taux d'homicide dans ce pays avait atteint des proportions épidémiques. Il semblait que seul un miracle pouvait stopper l'hémorragie. Mais au lieu d'un miracle, nous en avons eu 3. Les précognitifs. En seulement 1 mois, dans le cadre du programme Précrime, le taux de meurtre dans le district fédéral de Columbia fut réduit de 90%.
Ils étaient une bande qui m'attendait dans la voiture.
Ils voulaient me violer.
J'allais me faire poignarder.
Ici. En 1 an, Précrime a effectivement arrêté le meurtre dans la capitale de notre nation.
Depuis 6 ans que notre petite expérience a été menée à bien, il n'y a pas eu un seul meurtre.
Et maintenant, Précrime peut fonctionner pour vous.
Nous voulons être absolument certains que chaque citoyen américain peut compter sur l'infaillibilité totale du système et que ce qui assure notre sécurité peut aussi garantir notre vie et notre liberté.
Précrime, ça fonctionne.
Ça fonctionne.
Ça fonctionne.
Ça fonctionne.
Ça fonctionne.
Ça fonctionne.
Précrime, ça fonctionne.
Le mardi 22 avril, votez oui à l'initiative nationale Précrime.
Ceux de nos auditeurs qui n'ont pas vu le film ont bien compris qu'il s'agissait d'un spot publicitaire. Il s'agit d'obtenir des citoyens qu'ils votent pour une extension de cette expérience qui existe seulement pour l'heure dans le district de Columbia pour l'étendre aux États-Unis tout entier. Il s'agit en effet d'éviter que les crimes aient lieu puisqu'on les aura en quelque sorte prévus et qu'on condamnera ceux qui auraient pu les accomplir avant qu'ils les aient accomplis. Michel Poret.
Oui, c'est une page de cinéma extrêmement intéressante puisqu'on est dans un imaginaire utopiste très fort qui peut, dont on pourrait, je dirais, déployer les origines. Il y a du Bentham là-dedans, évidemment, la société transparente. Il y a le 1984 d'Orwell, c'est-à-dire que Big Brother peut savoir finalement qui vous êtes politiquement et intervenir d'une manière préventive. Et puis il y a, je dirais, tout un héritage d'une littérature utopique extraordinaire. Et ça m'avait frappé une fois, j'avais étudié ça de près. Je m'étais posé la question de savoir pourquoi toutes les grandes utopies depuis le XVIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, il y a toujours des crimes. Et il y a toujours des peines en utopie. J'ai même écrit un texte qui s'appelle « Crimes et châtiments en utopie ». Et il y a une espèce d'extraordinaire récurrence, c'est-à-dire que ce monde utopique, quelle que soit sa connotation, n'arrive pas à se débarrasser du crime. Alors qu'on construit des mondes parfaitement idéaux. Et je crois qu'un des discours sur lequel peut nous mener cette réflexion sur l'utopie, soit on pense à un monde parfait, dans lequel le mal n'existe pas, donc il n'y a pas de récidiviste, soit on est confronté à un monde réel, social, dans lequel le mal fait partie de cette expérience du monde, et dans lequel il faut répondre, comme le disait Badinter tout à l'heure, il faut répondre au mal social du crime par l'état de droit, et non pas par un état sécuritaire qui va, comme dans le film de Tom Cruise, qui va essayer de mettre en place des dispositifs pour faire que, rien que d'y penser, on sera arrêté. En ce moment, il y a une campagne politique à Genève qui est menée par un parti d'extrême droite. Et c'est pour ça que ça m'a frappé. Le slogan, si je suis élu, en 45 jours, il n'y aura plus de mendiants, il n'y aura plus de dealers, il y aura la sécurité reconstituée. Donc l'utilisation politique du discours sécuritaire et insécuritaire, est un argument extraordinairement, je dirais, contemporain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des individus, et pauvres notamment, dans des quartiers défavorisés, qui ne subissent pas la violence du crime. Ça existe et ça existera. On en parle aujourd'hui, on pourra en reparler dans 100 ans, donc ça ne disparaîtra jamais. Par contre, l'utilisation politique et morale de ce vieux discours qui remonte, en tout cas à la fin du Moyen-Âge, est quelque chose sur lequel les politiciens qui, quelquefois, l'utilisent d'une manière extrêmement démagogique, devraient un peu plus réfléchir.
Eh bien, je vais vous quitter en Suisse, Michel Poret, votre pays, et je vais vous quitter aussi sur cette réflexion sur les sources consciente ou inconsciente d'un certain nombre de politiques contemporaines. Merci d'être venu à ce micro. Vous avez, merci, je le rappelle, dirigé un livre collectif avec Françoise Brigel, un livre qui s'appelle « Récidive et récidiviste du Moyen-Âge au XXe siècle » qui est paru en 2006 chez Droz. Samedi prochain, je recevrai Agnès Chauveau et nous parlerons de la capacité de séduction des gouvernants, leur manière dont ils s'adressent au peuple. Informer ou séduire ? Point d'interrogation. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, avec la collaboration de Meryl Moneghetti, avec Sophie Bobert, notre réalisateur Patrick Molinier, Fabien Eliès à la prise de son, stagiaire Coralie Albinet, avec pour les archives INA, Catherine Louis.